Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Cette émission vous est proposée avec la merveilleuse et somptueuse participation de Frédéric Georges Tudeau, Cédric Dordoigne, Bruno, Tom Mérite, Matt Houston, Guillaume Lebrun, Patrick Cohn, Nico C., Gorben Dallas et Bruno Certine.
Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech. Le Rendez-vous Tech, c'est l'émission où on vous propose de vous résumer l'actu tech, internet et gadgets, tout ce qui s'est passé ces deux dernières semaines, tranquillement installé dans votre canapé ou alternativement sur votre serviette de plage à la plage. C'est les deux options qu'on vous propose. Je m'appelle Patrick Béja et je suis maître de cérémonie de cette cérémonie tech. J'ai avec moi deux personnes que j'ai sélectionnées avec un thème extrêmement puissant et pertinent, puisque je me suis dit aujourd'hui je ne pouvais avoir que des co-animateurs dont le prénom commence par J. Je vous présente donc Jeff qui nous rejoint en direct de la Silicon Valley et Jérôme qui nous rejoint en direct des sphères créatives parisiennes.
De Silicon 18e.
Comment ça va, messieurs ?
Ça va nickel.
Oui. Ça va super.
Vous êtes pas en vacances là ? Qu'est-ce qui se passe ?
Ça veut dire quoi ? Attends, je cherche sur Wikipédia vacances. Non, j'ai aucune.
Oh, arrête, t'étais au Vietnam il y a un mois, deux mois.
Et moi, en fait, j'ai passé une quinzaine de jours en France dans les deux premières semaines de juillet, où on a eu un temps qui était assez minable, qui a plu tout le temps. Et donc là, je suis de retour, là où il fait beau et chaud.
Ouais, oui, t'as fait des belles visites de cave à vin. Je suis vu sur Instagram. C'était
on a regardé ça, oui, c'est vrai.
Ouais, ça allait, ça. C'était pas sous la pluie.
Oui, non, mais bah écoute, juste quand t'es parti, il s'est mis à faire beau et là, il fait encore un petit peu chaud. Donc, tu nous as laissé le soleil, c'est gentil de ta part. Jérôme s'est fait attraper sur les histoires de Vietnam. Mais peu importe, ce dont on va vous parler, c'est la question des questions tech, notamment sur Microsoft. Je l'évoquais pendant l'épisode précédent un tout petit peu. Il y avait une possibilité pour que Microsoft se réorganise un petit peu et du coup renvoie un certain nombre d'employés. On pensait pas que c'était à ce point-là. Vous allez voir que la coupe a été sévère. On a aussi une nouvelle qui pourrait paraître hallucinante aux vieux de la vieille de la tech. Une union abominable entre Apple et IBM. En fait, on verra que c'est pas si abominable que ça. Et il y en a un et il y a aussi un troisième sujet que j'évoquerai, que certains d'entre vous ont déjà entendu parler, dont certains d'entre vous ont déjà entendu parler sur Twitter, c'est les plombiers en France. Et attention, je vais lier ça à la tech et d'une manière assez sérieuse. Donc vous verrez de quoi il en retourne. J'ai eu une mésaventure il y a une dizaine de
jours. Il faut virer 18 000 plombiers, c'est ça ?
Alors justement, 18 000, on parle de Microsoft d'abord. Comme je le disais dans mon épisode tout seul, il y a une quinzaine de jours, il y avait donc des rumeurs selon lesquelles, une sorte de pré-annonce de Satya Nadella qui nous disait qu'il allait sans doute réorganiser la société ou qu'il réorganisait la société et que ça allait sans doute mener à des coupes franches dans les forces vives de la société. Alors, quelques chiffres avant tout pour bien situer les choses. Microsoft, aujourd'hui, c'est au total presque 130 000 employés. Donc, c'est quand même une machine absolument énorme. Les coupes, donc les renvois, sont de l'ordre de 18 000 employés, ce qui est quand même énorme pour une boîte de 130 000, mais tout de même. Et il faut savoir quand même, pour bien comprendre la configuration, c'est que parmi ces 18 000 personnes qui vont perdre leur emploi, malheureusement, 12 000 viennent de Nokia. qui vient d'être acheté par Microsoft, bien sûr, comme on le sait tous. Donc, il y a certainement un certain nombre de redondances qui vont être éliminées. Bon. À côté de ça, on ne cache pas que Microsoft, depuis quelques années, on ne va pas dire qu'ils souffrent horriblement, mais ils ont été largement affectés par le virage de la mobilité initié par Apple qu'ils n'ont pas su prendre, contrairement notamment à Google. Est-ce que, je vais vous poser la question de but en blanc, est-ce que c'est une bonne chose pour Microsoft, pour le futur de Microsoft, qu'ils y aillent aussi franchement avec plus de 10 ou 12% de leurs effectifs qui vont se retrouver sans boulot? Je vais donner la parole d'abord au jeune homme qui nous rejoint de la Silicon Valley, qui a une vision très tech, start-up américaine de la chose. Comment tu l'analyses, toi, cette décision de Nadella?
Je pense que c'est tout à fait légitime que Satya Nadella, en tant que nouveau CEO qui doit vraiment changer la façon dont Microsoft opère, de faire des coupes sombres dans la masse salariale pour libérer du cash pour se focaliser sur de nouvelles opportunités, sur des nouveaux projets, qui taillent aussi en gros les projets qui n'ont pas vraiment de sens. Puisque dans une boîte de 130 000 personnes, tu as toujours des tonnes de trucs qui se font parce que ça fait des années qu'on fait comme ça, sans être remis en question. Et en fait, quand tu relativises, et c'est, bon, évidemment, ça va être très difficile pour les gens qui perdent leur emploi, 12, 13, 14, 15%, c'est pas énorme dans l'absolu, surtout quand tu as 12 000 de ces suppressions d'emplois qui vont chez Nokia, où clairement, de toute façon... je pense qu'on peut le dire, l'acquisition de Nokia, c'est une massive connerie de Ballmer, et que
l'ancien CEO, pour ceux qui s'en souviennent pas.
L'ancien CEO, et donc on se retrouve dans un contexte où il doit nettoyer ça. On peut le comparer en fait au rachat de Motorola par Google, où Google en fait a quasiment récupéré la quasi-totalité du fric qu'ils avaient investi lors du rachat, et où en fait Stephen Elop, qui était l'ancien dirigeant de Microsoft, qui était devenu CEO de Nokia, qui est re-rentré chez Microsoft grâce à l'acquisition, où à un moment ou un autre, j'espère que ce mec va se faire virer, parce que franchement, comme destruction de valeur, c'est absolument monstrueux.
Bon, disons que Nokia n'était pas en super forme non plus quand Stephen Elop est arrivé chez eux. C'est pas qu'ils avaient réussi justement ce fameux virage de la mobilité smartphone. C'est pas qu'ils l'avaient bien réussi, mais bon, je comprends.
Non, je suis d'accord avec toi, et je dis pas que la partie Elop. Stephen Elop chez Nokia a eu du succès, mais le fait qu'il soit en gros, plébiscité parce qu'il a réussi à vendre Nokia à Microsoft et ensuite on vire quasiment tout le monde et on n'utilise pas la technologie parce qu'on se bat sur du Windows Phone. Je suis désolé, mais c'est pas très positif.
Je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire que Nokia a été un petit peu vidé de sa substance, quoi. Jérôme, toi, comment tu l'analyses cette...
Je suis désolé pour ceux qui nous écoutent, qui attendaient peut-être une défense véhémente du travailleur, etc. Je suis plutôt vraiment d'accord avec Jeff. Je pense que même si c'est très douloureux, et je pense notamment à nos amis de Finlande, parce que ça, à mon avis, ça doit être là-bas où on vire pas mal
où
de monde.
Où ça coupe sévère.
C'est une coupe absolument nécessaire. Moi, vraiment à mon petit niveau, pour être allé parfois chez Microsoft France pour des rendez-vous et voir la société de l'extérieur, depuis plusieurs années, cette société me fait penser à une citadelle qui perd petit à petit des murailles. Elle en a encore des grosses et des solides. Je suis pas en train de dire que c'est la fin. Mais il y a une impression d'immobilisme et de sclérose de cette société. Je parle vraiment d'une façon globale. Je dis pas ils ont innové sur tout un tas de choses, ils ont lancé des choses. Mais on sent qu'ils sont sclérosés. C'est parfois le problème des très grosses boîtes de cette taille-là. Et en face, ils ont des grosses boîtes aussi qui ont su se tailler des vaisseaux amiral et avancer, peut-être pas toujours de manière très agile, mais en tout cas avec un mouvement. Et je pense que cette taille va permettre à Microsoft de reprendre du mouvement. En tout cas, je leur souhaite, parce que sinon, au bout d'un moment, la citadelle, ça tombe. C'est plutôt salutaire. Après, je partage pas tout à fait la vision de Jeff sur Nokia. Enfin, je la partage d'un point de vue certainement rachat et fond. Je pense quand même que le rachat de Nokia a permis à Microsoft de pas perdre 2 années de plus sur les Windows Phone, de sortir un peu en catastrophe, on le sait maintenant avec du recul, une plateforme avec du hardware sans avoir à trop s'occuper de fabriquer cet hardware-là. Alors, c'est sûr que ça a été fait au forceps. On peut regretter que Nokia n'ait pas choisi de faire de l'Android parce que ça aurait été des excellents téléphones.
D'ailleurs, Microsoft a tué la version Windows phonifié, le fameux Normandie de Nokia.
Mais Nokia n'allait quand même pas bien du tout. Je dis, ça les a pas sauvés, hein, mais je pense qu'ils seraient morts aussi si Microsoft les avait pas repris. Enfin, je pense aux 12 000 personnes qui se font virer. Mais je pense que ça a permis de gagner du temps pour Microsoft. Là, on sent quand même il y a un nouvel élan. Bon, c'est un nouveau patron. Après, c'est facile d'avoir un nouveau élan. Ça, c'est facile d'avoir un nouvel élan quand on est nouveau. Hein. Après, rendez-vous dans un ou deux ans.
C'est ce qui était nécessaire. C'est sûr.
C'est clair.
Oui, c'est peut-être ce qui était nécessaire, non pas les coupes franches, mais ce que je veux dire, c'est un nouveau patron, un nouvel élan. Tu dis, c'est facile d'avoir un nouvel élan quand on est nouveau. Et effectivement, c'est peut-être ça qui est important, qu'il est important de faire dans une société comme Microsoft qui est de la vie de tous. Je pense que même ceux qui se lamentent des pertes d'emplois chez Microsoft aujourd'hui seront sans doute, enfin j'imagine, d'accord pour dire qu'il y avait quand même énormément de lourdeur et énormément de passifs chez Microsoft. Et aujourd'hui, ils sont en train de, on va pas dire de régler le problème, mais ils sont en train. Il y a quelqu'un qui est en train de respirer assez fort. Dans les micros, je sais pas qui c'est. Il y a une sorte de lourdeur qu'il est difficile, bah comme tu disais Jeff, on fait les choses comme ça parce qu'on les a toujours faites comme ça, et ou alors parce que les projets sont déjà initiés, ce genre de choses. Et c'est très très difficile dans une grosse boîte de faire changer les choses. Donc je sais pas très bien quelle est la réponse, mais il y a tellement d'énormes boîtes justement qui ont continué à naviguer dans le même sens et qui se sont retrouvées à s'échouer sur les icebergs. Et évidemment, une des énormes boîtes à laquelle on pense, c'est IBM, qui n'est plus que l'ombre de ce qu'elle était avant et qui a été oxy notamment par Microsoft. Donc je sais pas quelle est la réponse. Disons que là, c'est une sorte de première étape douloureuse. L'orientation que donne Satya Nadella, dont on avait parlé, qui est plutôt vers le cloud et les services, pourrait être positive, mais moi, ça m'inquiéterait de voir Microsoft comment dire, j'ai l'impression que c'est une direction moins ambitieuse, plus prudente que celle qu'il y avait sous un Steve Ballmer qui a, oui, fait des conneries, mais aussi fait beaucoup de choses intéressantes. Donc vraiment, j'attends de voir. C'est toujours, je pense, nécessaire d'assainir le budget en quelque sorte, comme on le ferait nous à notre niveau familial. Quand on a des problèmes, et ben il y a un moment, il faut réduire les dépenses. Là, c'est un moyen de le faire, mais en même temps, j'attends de voir pour la suite, parce que je sais pas ce que ça va donner, son orientation cloud et entreprise, à Satya Nadella.
Je m'inquiète un peu pour tes enfants, Patrick, parce que si tu rajoutes des problèmes familiaux en faisant des coupes sombres dans ta famille...
Dans le budget, j'ai dit, dans le budget. C'est genre, on remplace le Nutella par la pâte saveur noisette et chocolat du Super.
Leader Price.
En fait, Jeff, deux choses que je voulais mentionner. Une, c'est que... si on regarde juste les forces Microsoft qui sont coupées, ces 6000 personnes, bon, il y a le côté aussi les consultants qui vont également se faire virer. Et en fait, la question que j'avais pour toi, Patrick, c'est est-ce qu'on sait combien est-ce qu'il y a de consultants ou de gens temporaires qui vont aussi perdre leur boulot, leur projet chez Microsoft? Mais 6000 personnes sur une boîte de 120 000, c'est rien. Et donc, cette notion de... tu vois, pour moi, c'est on fait une coupe sombre et on coupe là où ça fait mal, mais on le fait une fois. Et il y a un terme en anglais qui dit « death by a thousand cuts ». C'est la mort par les millions, les milliers de coupures. C'est en gros, tu coupes un peu, puis après tu coupes un peu, puis après tu coupes un peu. Et c'est ce qui s'est passé en fait dans beaucoup de boîtes, genre chez RIM, le BlackBerry Maker BlackBerry, oui. de chez BlackBerry, où en fait ils ont viré des milliers de gens, mais au travers de plein de plans sociaux. Et je pense que 6000 personnes, la question que je pose, c'est pas, et en fait c'est pas tellement économiser, tu vois, les quelques 6, 8, 10 millions de dollars parce que tu vires 6000 personnes, c'est vraiment focaliser l'entreprise sur un ensemble de projets clés et faire en sorte que on fasse pas tout ce qu'on faisait, parce que on le faisait depuis des années, mais aussi on se pose la question stratégique de pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Et en fait, 6000 personnes qui partent à cause de ça, je sais pas si c'est assez.
Oui. Bon, écoute, on verra ce que ça donne dans quelques mois ou dans un an. Ce qui est sûr, c'est que c'est une nouvelle énergie, une nouvelle direction avec Satya Nadella, et espérons qu'elle porte ses fruits dans les mois et les années à venir.
En tout cas, je peux te dire qu'il passe beaucoup de temps dans la vallée. C'est-à-dire que c'est un gus qui est là. Je ne sais pas si c'est une semaine par mois, mais en tout cas, il fait le tour, il fait le tour de la vallée. Il a rencontré les VC, il a rencontré les startups. Donc, il est beaucoup plus... communicateur et ouvert sur la vallée que Ballmer le faisait. Bon, Ballmer était souvent dans la vallée aussi, mais on le voyait pas aussi souvent, quoi.
Ballmer avait, enfin, l'image qu'on avait. En même temps, on critique beaucoup Ballmer et on parle notamment de Office sur iPad. C'est Ballmer qui a approuvé le projet Office sur iPad, hein, entre parenthèses. Donc, c'est lui qui l'a lancé. C'est pas Satya Nadella. Donc, moi, je trouve qu'on critique énormément Ballmer, pas toujours à juste titre. Mais bon, bref, c'est une autre histoire. La stratégie de Nadella a l'air assez établie là aussi. Une dernière note, on a entendu ici et là qu'il allait y avoir une sorte d'unification de Windows sur toutes les plateformes, donc Xbox, Windows Phone et Windows Classic, en une seule version. En fait, c'est pas du tout le cas. Beaucoup de gens se sont emballés avec cette information. Il n'y aura pas une seule version de Windows. Ce qui se passe, c'est ce qui avait été déjà annoncé à la conférence Build il y a quelques mois, qui est ils vont unifier le cœur derrière pour que les applications soient faciles à passer d'une version à l'autre. Mais par contre, il y aura toujours plusieurs versions de Windows. Donc, je voulais le préciser aussi pour ceux qui avaient entendu parler de la chose.
Mais ce qu'il faut quand même, enfin, c'est vrai que Microsoft a été très challengé ces dernières années. Là, ce qui devient inquiétant pour Microsoft, c'est que, on va dire, ses dernières mamelles, enfin, vraiment ce qui est son bread and butter, comme on dit, commence à être challengé aussi. Tu les as mis dans
Windows et Office.
Office, le monde de l'entreprise, on va le voir tout à l'heure, mais même le monde de l'éducation, c'est ce que tu avais mis dans les notes avec effectivement Google qui vend très très bien des Chromebooks. Donc là, Microsoft, si tu te projettes loin, on va dire, dans les 10 ans à venir, il y a quand même des réels soucis à se faire. Et je pense qu'il a vraiment pris conscience de ça et qu'il faut insuffler un nouvel esprit de challenger maintenant à Microsoft et plus de leader omnipotent qui perd des miettes.
Mais je sais pas si c'est. Enfin, le truc c'est qu'on ne sait pas encore. Peut-être que ça arrivera dans quelques temps et que il va. Enfin, que c'est la première étape de cette réorganisation. Enfin, de ce nouvel élan, on va dire. Mais bon, on verra. Donc, on parlait de l'entreprise et notamment d'IBM, et il y a une autre nouvelle assez surprenante qui est tombée il y a une dizaine de jours, une semaine. C'est un rapprochement assez stratégiquement très important entre Apple et IBM. Le but de ce rapprochement, c'est d'installer plus facilement pour les entreprises iOS, donc les iPhones et les iPads, en entreprise en tant qu'outil de travail, avec la puissance de feu dans les entreprises d'IBM qui est extrêmement forte encore aujourd'hui. Donc il y a une sorte de caution IBM qui s'installerait pour toutes les machines de bureautique et les outils d'Apple qui seraient gérés par IBM pour les installer dans les entreprises de concert avec les PC. Alors c'est très intéressant pour énormément de choses. D'une part, parce que IBM et Apple étaient des ennemis jurés dans les années 70. Apple était, on se souvient de la pub qui était passée une fois au Super Bowl où c'était 1984, Apple qui arrive avec le Mac pour détruire le monopole Big Brother-esque d'IBM. Il faut se souvenir que IBM, à l'époque, c'était une boîte particulières. Ils avaient des chansons d'entreprise, ils étaient...
Je fais une petite parenthèse, si vous regardez la série Halt and Catch Fire, on retrouve bien cette ambiance-là, parce que c'est exactement ça.
Et donc, ils étaient vraiment ennemis jurés Apple et IBM, et aujourd'hui, le fait de qu'ils se s'unissent commercialement et professionnellement, c'est très étrange, mais en même temps, ceux qui se souviendront un tout petit peu plus de l'histoire se souviendront qu'il y avait à l'époque, enfin il n'y a même pas si longtemps que ça, une autre union entre Apple et IBM et d'autres, et Motorola, etc., derrière la plateforme PowerPC, qui a, entre parenthèses, pas très très bien marché, qui a même mis en danger très sérieusement le Mac, parce qu'il n'arrivait pas à suivre contre la puissance de Intel et Windows. Les machines Wintel étaient beaucoup plus puissantes que le Mac, malgré ce que voulaient bien croire les forcenés d'Apple dans les années 2000. Moi, j'ai eu des conversations hallucinantes avec des amis qui me... Enfin bref, je vous passe les détails, mais c'était invraisemblable. Et jusqu'à ce que Steve Jobs décide, bon bah on va revenir chez Intel parce qu'on n'a pas le choix, Apple et IBM étaient déjà unis ensemble. Donc, la grandeur passée d'IBM est bien passée et c'est aujourd'hui une entreprise de taille beaucoup plus modeste qui a une très grosse empreinte dans le monde de l'entreprise et qui peut être très bénéfique à Apple parce qu'ils peuvent leur ouvrir les portes de l'entreprise. En gros, c'est ce qu'espèrent en tout cas les gens d'Apple et d'IBM en même temps. Je vais d'abord parler à Jérôme, qui n'est pas horriblement biaisé et qui n'a pas d'a priori terrible sur IBM, ou encore que peut-être, je ne sais pas. Mais est-ce que toi qui vis dans un monde un petit peu créatif, avec plutôt une dépendance aux produits Apple au quotidien, c'est quelque chose qui, pour toi, pourrait fonctionner ?
D'abord, plusieurs choses. D'abord, je suis de plus en plus fan de Tim Cook. Je trouve que c'est très intéressant ce qu'il fait en ce moment avec Apple. On le verra peut-être dans quelques années, je me trompe peut-être, mais je pense qu'il fait des choses que Steve Jobs n'aurait pas pu faire, paix à son âme. Et notamment, un accord comme ça, ça demande une remise en question pour un capitaine d'entreprise de cette taille-là. Faut pas avoir un énorme ego parce que ça peut te boucher dans ce genre de truc. Et je trouve ça extrêmement courageux et très visionnaire. Alors, sur mon boulot, plusieurs choses. C'est vrai que je travaille de moins en moins avec des créatifs. Donc, mais quand même, je suis dans le monde du marketing. Donc, on va dire que historiquement, en tout cas en France, énormément de Mac. Et ça va pas changer grand chose. Ce qui est plus intéressant, c'est que je travaille avec beaucoup de clients qui sont dans le retail, donc des entreprises lourdes qui ont tendance à user leur ordinateur jusqu'à la dernière corde et à acheter du matériel, on va dire, pas hyper cher. Et ce qui est très marrant, c'est de voir à quel point ce monde de ces entreprises lourdes s'est appelisé, en tout cas en France. De plus en plus d'iPhone ont remplacé les BlackBerry. Et de plus en plus de MacBook Air remplace le vieux HP ou l'ordinateur portable. On sait que dans beaucoup d'entreprises, il y a eu d'ailleurs des batailles féroces entre les gens de l'IT et l'informatique qui, souvent dans les grosses entreprises, est plutôt anti-Apple, et les utilisateurs finaux, les gens de l'entreprise qui ont commencé à arriver avec leur iPhone en disant « je veux ça pour bosser », quoi, avec leur iPad, avec leur Mac, en disant « je veux ça, j'en ai marre de perdre du temps avec des ordinateurs qui marchent pas très bien ». Je suis pas en train de dire que Windows marche pas très bien, hein, mais c'est souvent quand même le discours qu'on entend. Bon,
disons qu'on retrouve souvent ça sur la mobilité, effectivement, c'est le fameux « bring your own device », BYOD, qui a été vraiment forcé sur les départements IT du monde entier, quoi.
Et alors, pour conclure, je dirais que quelque part, Apple n'a pas besoin d'IBM pour pénétrer le monde de l'entreprise parce que c'est un fait. Ils font des percées très intéressantes dans le monde de l'entreprise. Là où Apple a vraiment besoin d'IBM, et l'image que Tim Cook a pris, c'est des pièces de puzzle complémentaires qui ne se battent pas l'un l'autre. Il a retenu la leçon de Google, hein, et des partenariats avec Google autrefois. C'est que IBM va effectivement apporter une force commerciale de déploiement et d'après-vente, parce que c'est le problème aujourd'hui d'Apple, c'est déployer des flottes de 12 000 iPads dans une entreprise. Et comment on gère ça? Et Apple n'a pas envie de développer ce business-là. Ils ont envie de vendre des iPads, de faire des applications pro, mais ils veulent pas vendre des contrats de maintenance sur des flottes de 12 000 iPads. Donc je pense que c'est là, et IBM bien sûr a besoin d'Apple pour effectivement tout leur service cloud qui aujourd'hui fait la richesse d'IBM, parce que IBM va pas si mal que ça. Effectivement, ils ont été réduits par rapport aux années 80, mais ils se démerdent pas mal dans ce qu'ils font. A besoin, voilà, de nouveaux devices, et voilà, le device qui plaît dans les entreprises, c'est beaucoup Apple. Donc c'est un partenariat très intéressant.
Je me retourne vers Jeff, du coup. Est-ce que c'est le début de vraiment l'arrivée d'Apple dans les entreprises de manière un petit peu plus sérieuse, pas simplement avec les gens qui amènent leur own device ou les départements IT qui se démènent pour essayer de faire marcher tout ça? Là, IBM arrive avec une solution facile à mettre en place, ou en tout cas dont il se charge. Est-ce que ça pourrait convaincre des gens? Et donc signaler l'arrivée d'Apple de manière effectivement plus sérieuse dans les entreprises?
Je pense que tout dépend du type d'entreprise que auquel tu penses. Pour les grandes entreprises qui ne sont pas des entreprises de tech, pour les grandes administrations, je pense que la réponse est oui.
C'est ça qui vise. Hein. C'est ce genre de marché dans lesquels Apple n'a pas réussi à entrer, quoi.
Parce qu'aujourd'hui, dans tout ce qui est start-up tech, enfin ici dans la vallée, quand on a un entrepreneur qui vient nous pitcher avec un PC, on lui fait la remarque qu'on n'a pas les adaptateurs qui vont bien. On lui demande si par hasard il n'aurait pas un Mac, quoi. Et bon, on a les adaptateurs, mais c'est tellement bizarre de voir quelqu'un arriver avec un PC qu'on le remarque. Parce que
je suis le seul à aimer les PC, je resterai jusqu'au bout.
95% des gens qui viennent nous pitcher, et on en voit des centaines et des centaines par trimestre, on est à 90-95% qui se pointent avec un iPad ou un MacBook Air ou un MacBook Pro. Donc,
non, bien
je pense
sûr,
que
mais ces gens-là, effectivement, leur infrastructure n'est pas gérée par IBM. Hein, c'est
tout à fait.
Ce que
je pense qu'aujourd'hui, Apple a fait un très bon boulot avec le Genius Bar, avec des contrats de maintenance. Tu vois, tu payes genre $500 par an et tu peux avoir un loaner, un Mac de remplacement si jamais le tien ne marche pas. Tu vas à l'Apple Store, tu le récupères. Donc, ils ont fait un très bon boulot pour tout ce qui est SMB, pour accompagnement, start-up, etc. Mais je pense que pour tout ce qui est très grand compte, ils avaient besoin d'un partenaire tel que IBM. Dans l'exemple que mentionnait Jérôme, qui est « je veux provisionner 12 000 iPads », même si ce n'est pas énormément de boulot, ça représente quand même du boulot. Et c'est là où il y a un gros alignement, je pense, avec IBM. Et c'est là où on peut voir une croissance supplémentaire pour Apple dans les années qui viennent, et des mauvaises nouvelles de fait pour Microsoft,
ouais,
et pour,
ouais,
Dell et pour HP.
Et aussi quelque part pour Google, Samsung, qui, enfin, disons qu'ils vont avoir du mouron à se faire aussi. Ouais. Bah, disons qu'ils sont un compétiteur.
L'une des grandes questions, effectivement, c'était que va faire Android suite à ce partenariat. BlackBerry, ils sont plus que dans la mouise. On a vu que leurs
actions... C'est horrible,
actions...
BlackBerry. Ça devient terrible. Hein. On a l'impression que là, ils déterrent un cadavre et ils vont replanter des coups
dessus,
de...
Ouais. Bah, en fait, on a vu que les actions avaient chuté de 10% le jour de l'annonce ou le lendemain de l'annonce. Parce qu'effectivement, c'est directement à BlackBerry, les rares fiefs qui restent à BlackBerry qu'ils s'attaquent. Moi, j'avais une autre remarque. On avait entendu des rumeurs selon lesquelles il y aurait un iPad Pro ou alors des applications, la possibilité d'avoir deux apps côte à côte qui pourraient grandement augmenter l'utilité pro d'un iPad. Et moi, c'est quelque chose qui me semble clairement un handicap. Le fait qu'on ne puisse pas avoir deux applications dont on passe de l'une à l'autre directement, c'est un handicap pour la productivité sur iPad. Peut-être que ça pourrait arriver et que ça signalerait aussi un focus renouvelé, une concentration renouvelée sur les applications professionnelles, et que ça pourrait être cohérent avec cette opération aussi. Donc, on verra la
suite. Si tu me permets, Patrick, j'ai une petite lettre ici que j'aimerais adresser à Tim Cook qui nous écoute. Donc, en fait, c'est ce qu'il faut faire avec l'iPad. Parce que c'est clairement ça. Là, les ventes d'iPad sont en train de baisser et c'est en entreprise dont on a besoin des iPads. Alors, Tim, tu nous mets un stylet, hein, tu oublies l'histoire qu'il fallait pas de stylet dans les iPads parce qu'on en a besoin pour prendre des notes, donc un stylet qui marche bien. Tu rachètes par exemple 53, la société qui fait Paper et qui viennent de sortir un Pencil et qui travaille sur courrier de Microsoft pour développer toutes les prises de notes.
Dont tu as fait le test d'ailleurs sur Nowtech.tv.
Et tu fais un iPad genre iPad Air en plus fin parce que tu dois savoir faire, et tu mets une option clippable, c'est-à-dire que j'aurai le choix soit de mettre un clavier si je veux faire un peu de saisie sur mon iPad, soit de mettre un deuxième iPad ou un écran. Par exemple, tu peux même mettre un écran noir et blanc du Paper, tu vois, ça sera encore plus agréable.
Oula,
pour que je puisse afficher
je te suivais
pour que je puisse afficher deux documents, justement, que j'ai mon PDF d'un côté, mon mind mapper de l'autre, et que je puisse avec mon stylet faire de mon mind mapping par rapport au document PDF que j'ai reçu. C'est
oula,
ce qu'il faut faire
là,
avec l'iPad Pro.
D'accord. Bon, là, je te laisse la paternité de ces suggestions. Je suis pas certain du tout. Bon, dernier sujet de nos trois sujets.
Je savais pas que Tim Cook écoutait le Rendez-vous Tech en français. Chapeau.
Non, mais
moi, je dis chapeau.
C'est justement, alors on le sait pas, mais il essaye d'apprendre le français en ce moment et il nous écoute religieusement. Hein,
ouais. Il écoute que quand Jérôme est dans l'émission, en fait.
Ah bah, je suis un peu le visionnaire Apple. Hein.
Trop fort.
J'invente des produits qui ne sortiront jamais, mais qui sont chouettes.
Bon,
tu
vous l'avez remarqué.
La prochaine fois que je te vois.
Bah oui, clairement.
Il te l'enverra par iPad interposé.
Avec mon Pencil.
donc vous l'aurez remarqué, c'est quand même pas les news tech les plus excitantes de l'histoire tech, mais il n'empêche, il y a des choses intéressantes.
Je suis pas d'accord. Attends, excuse-moi, mais Apple et IBM, moi ça me chamboule.
Oui, c'est vrai. T'as raison. Et puis c'est surtout très intéressant en fait de voir d'un côté l'état dans lequel est Microsoft et de l'autre Apple et IBM se mettre à fricoter ensemble de manière sérieuse. C'est pour ceux qui suivent un petit peu l'histoire de l'informatique, c'est effectivement intéressant. Oui. Mais vous savez, il y a un autre truc qui est très intéressant. C'est l'histoire des plombiers et des horribles arnaques dont on peut être victime. Je vais vous en parler je vais résumer parce que il y a une dizaine de jours, j'étais très remonté. Aujourd'hui, ça s'est un petit peu calmé. Mais je vais vous raconter très rapidement ce qui m'est arrivé. Il y a donc une dizaine de jours, j'étais dans mon studio et j'avais un problème avec mon ballon d'eau chaude. Et on était vendredi soir, évidemment, c'est en plein milieu des vacances. Et je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire? J'appelle, je cherche sur Google un plombier genre 24 heures sur 24, machin. J'en trouve un, je l'appelle, ils ont l'air super sérieux, super bien. Ils me disent, oui, bien sûr, monsieur, on vous envoie quelqu'un, il sera là dans une demi-heure. Ok, d'accord, très bien. J'attends le mec, il finit par arriver. Il regarde le truc et il me dit, ah bah ça, mon bon monsieur, c'est la résistance. Bah oui, écoutez, je vous l'enlève, on va vous la changer, je vais aller chercher, enfin le type me dit, on va aller chercher les trucs, ça vous coûtera 750 €. Moi j'ai les yeux qui écarquillent, qui explosent. 750 €, c'est le prix que j'ai payé la pose du ballon d'eau chaude complet il y a 6 mois ou 8 mois. Donc évidemment, moi ça me va pas. Je lui dis, mais vous êtes malade, machin, truc. Il me dit, oh bon, on discute un petit peu. Ok, 450, mais vous me payez en liquide, hein. Je dis, on est le week-end, machin, j'ai besoin de l'eau et tout. Ok, bon, 450, au moins ça marchera, je me dis. C'est les yeux de la tête, mais bon. Et sur Twitter, il y avait plein de gens qui me disaient, ouais, mais non, ça doit être une arnaque, machin. Il y a d'ailleurs, je voulais remercier Nels75018 qui m'a beaucoup aidé, Tristan par mail qui m'a aidé et plein d'autres encore. Merci à vous tous. Bref, je dis finalement, ok, bon, 450, c'est les yeux de la tête, je vendrai un rein, très bien, mais au moins ça marchera. Le type, il commence à faire la vidange, machin, à regarder le truc, il sort la résistance. Je me dis, mais cette résistance, elle a l'air bien, pourquoi? Ok, mais bon, j'en sais rien, moi je suis pas du tout. Tu vois, tu me donnes un PC à remonter, pas de problème, un ballon d'eau chaude à changer, aucune idée de ce qui se passe. Au bout d'une heure, je me dis, mais enfin, vous faites quoi? Le mec, il me répond pas, genre limite catatonique. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe, machin? Il me dit, oui, ok, je vais voir, je sais pas. finalement, il se retourne, il me dit, écoutez, ma femme est enceinte, elle a de gros problèmes, vous êtes sûr que ça peut pas attendre dimanche? Je dis, mais là, vous avez démonté le truc, machin, qu'est-ce que je fais? Non, bah non, je suis désolé pour votre femme, mais il me dit, ouais, bon, ok, bon, j'y vais, et y a un collègue à moi qui va venir avec la pièce à changer. Je dis, mais une seconde, là, enfin, donnez-moi au moins son numéro de téléphone, machin. Il me donne un numéro de téléphone. Je dis, bon, bah, ok, désolé pour votre femme, bon courage, machin. J'essaye d'appeler le collègue. 5 minutes, 10 minutes, pas de réponse, répondeur direct, machin. Finalement, je rappelle la boîte. Et ils me disent, ah oui, vous inquiétez pas, monsieur, on va vous voir ce qui se passe. Je les rappelle, je vous rappelle tout de suite, vous inquiétez pas. Entre temps, l'installateur d'origine, c'est Dallas, hein, mon histoire. Je vous préviens, c'est invraisemblable. L'installateur d'origine me rappelle parce que j'avais essayé de le joindre, j'avais pas réussi. Il me rappelle et je lui raconte tout ce qui s'est passé. Et le mec, comme Batman, il me dit ah non mais ils sont en train de vous arnaquer. Ça peut pas être la résistance. J'arrive. Le mec, il habite à 1 heure, il revenait de vacances en Espagne, il venait d'arriver de l'aéroport. Enfin bref, il me dit non mais je veux pas que vous vous fassiez arnaquer. J'arrive. Paf, il pose tout, il vient, il fait tout le chemin. Et entre-temps, la société que j'avais appelée me rappelle en me disant « Ah, mais le type en question, on l'a renvoyé, c'est n'importe quoi. Vous aurez quelqu'un chez vous dès demain pour réparer le truc. » Je lui dis « Mais enfin, vous l'avez renvoyé. Bon, écoutez, je suis désolé, le mec, l'installateur d'origine m'a rappelé, c'est bon, on annule tout. » Ils me disent évidemment « Ouais, ok, on annule tout, pas de problème. Par contre, je vous envoie le 100 ou 150 euros de forfait pour le truc. » Je lui dis « Mais vous foutez de ma gueule ? Le mec, il a démonté le truc, il a rien fait, il a tout posé, il s'est barré. » Et là, il commence à monter sur ses grands chevaux. « Mais enfin, vous croyez que je les paye avec des marrons, mes employés ?» Je lui dis « Mais enfin, je croyais que vous veniez de leur envoyer, qu'est-ce que... » Bref. Il se met à hurler, il me raccroche au nez. Je dis bon bah, franchement, ce mec-là, je préfère dépenser 2 000 euros au tribunal ou 10 000 euros. Bon, peut-être pas 10 000, mais je préfère dépenser des sous au tribunal plutôt que de lui donner 1 euro. Il n'aura rien parce que quand le mec, l'installateur d'origine, finalement arrive, il regarde le tout, il me dit mais évidemment la résistance n'avait aucun problème. Il voit le truc qui avait un problème, il fait une réparation genre à l'agence touristique, il fait le truc, il me dit bon, ça m'a marché pendant quelques temps, je le ferai réparer après. Mais ce que ça veut dire surtout, c'est que quand il voulait me changer la résistance et me prendre 750 euros et puis finalement non 450 parce qu'on est sympa, il m'aurait changé la résistance le lendemain ou le surlendemain en faisant traîner les trucs. Il l'aurait changé, il m'aurait pris 450 euros, ça n'aurait toujours pas marché parce que ça n'avait rien à voir. Le mec, il me l'a réparé en 2 secondes, ça n'avait rien à voir avec la résistance. Et il m'aurait revu, genre le lendemain, quand ça marchait toujours pas, il m'aurait dit « Ah bah oui, mais là, défaut de fabrication, faut tout changer. » Et j'aurais dû repasser à la caisse.
Bien donc, sûr. Et puis, il t'a tout démonté parce que derrière, tu peux... Enfin, ça, c'est un truc classique. Il commence le chantier, puis il se barre. Comme ça, voilà, exactement, tes pieds et poings liés, quoi. Mm-hmm.
Et donc, la conclusion de tout ça, c'est que d'une part, enfin, s'il m'avait dit, tu vois, ils font le truc et ils prennent avantage de la situation, je fais un anglicisme, mais de la situation, ils te font payer plus cher, et bon, ils sont là 24 heures sur 24, je sais pas quoi, ok, pourquoi pas, à la limite, tu vois, si j'avais dû payer 450 euros, ce qui est hors de prix, mais que ça avait marché, pourquoi pas, j'aurais pu l'accepter. Mais là, il m'aurait fait payer ce prix ridicule hors de prix et il m'aurait ensuite re-arnaqué après. Tu vois, c'est là que ça dépasse complètement les bornes, ça dépasse complètement les limites. Et ça m'a amené à une réflexion, j'en ai beaucoup parlé avec toi, Jérôme, puisque tu étais en train d'attendre qu'on ait fini et tout, et avec ma femme et avec plein de gens. Et ça m'a amené à une réflexion, et c'est là que je reviens vers la tech. C'est là encore un marché que les gens connaissent peu, enfin un marché, un métier, un marché que les gens connaissent peu, où il y a très peu de comptes à rendre de la part des entreprises parce que les gens connaissent pas et il y a assez peu de règles, il y a assez peu de lois, enfin pas de lois mais de règles à respecter, il n'y a pas de déontologie comme je sais pas chez des médecins ou des avocats ou ce que c'est. Et c'est vraiment le type d'industrie, là je reviens à la question tech, qui est tout à fait prête à être chamboulée par quelque chose qui permettrait de, je sais pas, mais par exemple le fait de une plateforme générale pour les plombiers qui te permettrait de noter, de faire des retours d'expérience sur les plombiers que t'as eu. Quand tu voudrais aller chercher un plombier, tu vois par zone, par jour de travail, tout ça, et tu as des commentaires. Ne serait-ce que ça, je suis sûr qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire à la Uber, Airbnb, je sais pas quoi.
Moi, c'est ce que je te disais, il mériterait de se faire uberiser, quoi.
Mais exactement, exactement. Ouais. Et je me dis, et j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit, quelle autre industrie est dans le même cas, plus ou moins ? Et je me suis dit, il y a une autre industrie à laquelle j'ai pensé, c'est les garagistes. Mmh. Il y a les plombiers et les garagistes, c'est les deux trucs où tu sais jamais où tu mets les pieds. Généralement, les gens connaissent pas trop, donc c'est facile de se faire arnaquer. Et quand tu en as un qui est bien, non seulement tu l'adores, mais tu le gardes comme ton cœur, ton bien le plus précieux, et tu peux le recommander à tes potes, quoi. Le premier truc que tu fais, c'est est-ce que t'as un bon plombier, est-ce que t'as un bon garagiste, est-ce que t'as une bonne personne pour faire les travaux. C'est tellement rare, il y a tellement peu de comptes à rendre. À mon avis, effectivement, comme tu disais, Jérôme, il y a une opportunité d'ubériser tout ça. Évidemment, ça sera dur pour certains, mais le genre d'arnaqueur auquel j'ai eu affaire la semaine dernière, ou il y a deux semaines, il faudrait un système c'est le genre de truc dont la tech devrait pouvoir, la tech et Internet surtout, avec la désintermédiation et la mise en relation la sharing economy, la mise en relation aussi avec les différents clients qu'ils ont eu, l'historique qu'on peut garder, c'est un truc qu'il faudrait qu'un entrepreneur devrait pouvoir disrupter, comme on dit en anglais.
Il y a un ou deux services en Californie qui font ça. Donc il y a une espèce de Yelp qui est spécialisé sur les travaux de ce type.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
We're all looking to make more sustainable choices, but making your own shoes out of natural materials could pose a few challenges. At the Allbirds Innovation Lab, they're doing all the science-y stuff like research and testing to create shoes from natural materials, like leather made from plants, eucalyptus tree fiber, and sugarcane. It's not rocket science, it's shoe science. Allbirds is making shoes better than natural. They're super natural. Find your perfect pair at Allbirds.com today. That's Allbirds.com.
Donc, ça s'appelle Thumbtack. Et très récemment, une boîte qui est en train de se développer très vite qui s'appelle Homejoy, qui te donne en gros, c'est le Uber du nettoyage de la maison. Donc tu dis bah voilà, je veux faire nettoyer mon appartement et ça va te coûter $28 ou $30 ou je sais pas quoi. Et en gros, Homejoy a étendu ses services à beaucoup de trucs du genre électricien, plombier, etc. Parce que le problème ici, c'est quoi ? C'est que les pratiques frauduleuses que tu as vues faites dans ton appartement, c'est des choses qui ne se retrouvent pas online. Tu peux pas laisser un commentaire et une revue pour dire c'est des enculés et il faut jamais les appeler, quoi.
Ouais.
Parce que malheureusement, ce que tu as décrit, c'est ce qui arrive très souvent, surtout avec des personnes âgées qui n'ont aucune idée de ce qui se passe et qui se retrouvent à payer des milliers d'euros pour des trucs dont ils n'ont pas besoin.
Et ce genre de truc, Homejoy, c'est le genre de truc où tu peux effectivement laisser des commentaires et tu peux voir.
Tout à fait.
Et je regarde sur le site, ils sont installés en Allemagne et en Angleterre et au Canada et aux États-Unis bien sûr. Donc il n'est pas impossible, il n'est pas impossible qu'ils arrivent en France à un moment, quoi.
On va avoir des belles manifs encore.
Ouais, c'est ça. sauf étant donné les problèmes d'Uber avec la France et les problèmes de régulation, je ne sais pas si les copains ils ont envie de, sachant que c'est les mêmes investisseurs, je ne sais pas s'ils vont dire allez en France.
Mmh. Ouais, peut-être, ouais, c'est possible. Bon, espérons qu'il y ait des gens courageux chez eux et que, en même temps, il n'y a pas une le problème de des garagistes et des, enfin à ma connaissance, hein, je connais pas très bien, mais des plombiers et des garagistes, il y a des gens très très bien et il y a des gens pas bien et tu peux pas faire la différence. Et il n'y a pas une sorte de corporation de casse qui a sclérosé toute l'industrie pendant des décennies, contrairement à ce qu'on a constaté avec les taxis. Donc la situation est peut-être, ouais, un petit peu différente, je pense. Mmh. Hein, je me trompe
voir,
peut-être.
À, mais... voir. À, ouais, mon avis, ils vont pas aimer qu'on aille farfouiller dans leurs affaires et justement, c'est quasiment des monopoles. Mais t'en as parlé de certains, mais t'as aussi les serruriers. Enfin, il y a tous ces métiers-là qui, en plus, généralement, ils ont affaire à des gens désespérés. Qui veulent soit rentrer chez eux, soit que ça arrête de couler, etc. Et qui, donc, des gens en fragilité, et pas forcément des vieux, hein, d'ailleurs, hein, pour avoir été enfermé en dehors de chez moi, t'es prêt à le payer n'importe quel prix, ton serrurier, pour qu'il t'ouvre et t'aille te coucher. Là, pour le coup, je suis pas vraiment pour les législations non plus à outrance, mais il faudrait aussi que le gouvernement légifère et fixe des cadres, ou effectivement, que certains entrepreneurs et le courage de se lancer sur ces marchés, quoi.
Ouais. Bon,
sachant qu'ils ne font que, enfin, quand tu fais une place de marché autour de ce type de service, tu ne vas pas aller remplacer les plombiers par des amateurs. C'est, tu vas simplement fédérer les bons plombiers et leur donner plus de jobs. Donc c'est pas comme les problèmes des VTC où les taxis disent on perd nos courses parce que on a un service de merde, mais au minimum on avait un monopoly. Et là maintenant il y a une alternative qui est pas beaucoup plus chère et qui est plus propre.
C'est sûr qu'il n'y a pas de oui, non, c'est sûr. Et puis surtout là, effectivement, tu fédères les bons, enfin tous, tu fédères tout le monde, mais c'est par un système de notation comme sur Yelp ou comme sur TripAdvisor. Tu vois, on est plus proche de ce type de service que d'un Uber. Encore que, il y a peut-être des systèmes de facturation à simplifier pour donner confiance aux gens. Je veux dire, si tu factures par le site en question, c'est peut-être aussi plus sécurisant pour les utilisateurs, etc., comme c'est le cas pour Uber, par exemple. Mais bon, bref, c'est quelque chose d'intéressant. Si HomeJoy annonce son arrivée en France, moi, je pense que, vu mon expérience, là, je serai des premiers à regarder de ce côté-là.
Bon, en tout cas,
suggère de tweeter à HomeJoy pour leur demander quand est-ce qu'ils arrivent en France.
Ouais. Eh ben, écoute, je le ferai.
Et je te suggère de ne jamais donner ton adresse parce que sinon toutes les personnes de ton immeuble ne vont plus avoir d'eau, plus d'électricité et tu vas être la cible de toutes les corporations.
Mais, ah oui, tu veux dire parce que je suis pour HomeJoy?
Eh oui.
Alors attends, hey, HomeJoy. HomeJoy sur Twitter. Voilà, HomeJoy. When are you coming to France?
Ah, ta dictée vocale, elle n'est pas très performante.
Need you. Hop, voilà. Je viens de tweeter à HomeJoy.
D'accord.
Donc, je vais passer un petit moment à remercier encore et toujours les patriotes qui nous donnent des participations, des soutiens pour le Rendez-vous Tech. Je vais recommencer tout de suite en remerciant du fond du cœur Vaughn Spendlove, qui a un nom tout à fait approprié, tu vois, il donne de l'amour. Kassim Kefti, un habitué. Samuel Terroitin. Samuel Terroitin, Pierre Jude, le Québécaire, j'imagine qu'il est au Québec peut-être, Baptiste Boilet, Frédéric Butler et également Monica Media, dont vous vous souviendrez peut-être, Oshava et Aura de Morcy, un autre camarade avec qui j'ai discuté ailleurs. Merci encore une fois et merci toujours à vous tous. Vous savez que Patreon, c'est un système qui vous permet de participer au Rendez-vous Tech en soutenant l'émission. Vous déterminez une somme particulière et à chaque épisode, elle vous sera débitée. Et ça, il y a déjà plus de 350 personnes qui participent. C'est une opportunité invraisemblable pour moi et je vous en remercie jamais assez. D'ailleurs, le micro dont je vous parlais la dernière fois, que j'utilise toujours, on est encore en train de déterminer l'utilisation parfaite de la chose, mais normalement, déjà, il y aura beaucoup moins d'écho avec les réglages qu'on a fait. Ça a été des réglages un petit peu douloureux, un petit peu compliqués, mais là, on commence à arriver à quelque chose de, enfin, au résultat que je voulais. Donc, la qualité du micro devrait être meilleure, l'écho est moins élevé. Sur les autres émissions, on a eu des petits soucis qui sont parfois sans rapport avec ce qui s'est passé avec le micro ici.
Tu peux enfin payer tes invités.
Et voilà, exactement. On n'y est pas encore, mais peut-être un jour, peut-être un jour. Donc voilà, donc vous connaissez, c'est RDV, le rendez-vous tech, pardon, non, patreon.com/rdvtech ou plus simplement lrdv.fr. Ça vous amène là-bas si vous vous dites que vous voudriez soutenir le rendez-vous tech et combattre l'économie de la pub. En payant pour le contenu que vous aimez. Évidemment, l'émission reste totalement gratuite et accessible à tout le monde. Mais si vous voulez contribuer à la qualité, parce que j'espère que c'est de la qualité, vous pouvez le faire, lrdv.fr. Je vous remercie tous, mes patriotes préférés. Les news et rumeurs, on a quelques trucs dont on va parler. Je sais que Jeff doit nous quitter bientôt. Mais,
oui, on va, en fait, je pense que c'est le bon moment pour... remercier tes patrons de leur soutien et vous dire au revoir parce que aujourd'hui j'ai un rendez-vous qui approche et donc je vais vous laisser. C'était comme d'habitude un très grand plaisir. Jérôme, à très bientôt. On a beaucoup parlé de Microsoft aujourd'hui, je tiens quand même à le dire, hein, même si on a
c'est
dit
vrai, mais pas forcément
été super
bien,
gentil,
hein,
mais
oui, c'est ça.
C'est quand même un des rendez-vous tech où on a parlé le plus de Microsoft.
C'est vrai, c'est vrai.
Et je pense qu'il y a toujours un espoir. Pourquoi ? Parce que je viens juste de voir que Fitbit vient d'annoncer son application Windows 8.1. Donc,
Windows Phone.
Windows Phone. Donc, on est enfin disponible pour les quelques utilisateurs de téléphone Windows. Vous êtes sauvés, vous avez enfin la connexion Fitbit.
Et n'interromps pas le Windows Phone, on a vu des retours en tech parfois.
Oui, oui, moi je suis tout à fait d'accord.
Ouais. Oui. Bon, ils sont bien enfoncés, mais...
C'est bien, il y a encore des believers.
C'est ça, exactement. Moi, je suis un Windows believer. Merci, Jeff.
Je vous laisse,
à la prochaine.
À bientôt.
Ciao. Salut, Jeff. Merci.
Non, franchement, c'est vrai que... Ah, c'était de Jeff que venait le petit souffle.
Ah bah oui, il était aussi en train de faire son sport.
Ah, c'est ça. Non, mais qu'il y avait un petit bruit que d'habitude, il n'y a pas. Bon, bref. Mais oui, donc décidément, cet été, c'est vraiment l'été des soucis de son. Hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bref.
Ouais, bah écoute, après,
ça arrive.
Non, bah c'est normal, tu as quand même tout un nouveau matériel. Il y a eu quelques ratés. Hein.
C'est vrai. Mais donc, bon, maintenant, tout va bien. Le son est de bonne qualité. On a la voix suave de Jérôme, ma voix suave pour vous parler des news et des rumeurs de... mais en fait, c'est marrant ce que tu dis sur les petits ratés parce que je me suis fait la réflexion. Je me suis dit, j'aurais pu continuer à utiliser le même système que j'utilise depuis 5 ou 6 ou 8 ans et ne rien changer, et c'était assez sûr. Mais là, il y a une petite période de travail et ça va me permettre de faire d'autres choses encore plus intéressantes à l'avenir. Donc,
il faut savoir sortir de sa zone de confort.
Non, mais c'est vrai. Tu sais, c'est vraiment ça. Parce que moi, par exemple, on a eu un problème avec le son sur l'émission Positron que j'ai fait avec Jérôme et Will. Et franchement, ça me fait mal, quoi. Tu sais, moi qui suis tellement attaché à la qualité du son.
Et moi, ça me fait mal d'entendre ma voix. On dirait que je suis un correspondant à l'étranger.
C'est ça, oui. Mais en même temps, c'est important aussi de faire des efforts et d'essayer de changer les choses dans le bon sens, bien sûr. Et bon, bref, c'est un tout petit niveau hein, sur ce genre de choses. Mais
moi, c'est pareil sur Nowtech. Voilà, on est des perfectionnistes on est content quand ça se passe bien. Mais quand on change les choses, moi j'ai changé de micro aussi pour Nowtech pour essayer de faire des émissions face caméra. Bon, ma première leçon. C'est comme si j'avais une casserole sur la tête, quoi.
Ouais, donc c'est ça, c'est sortez de votre zone de confort. Et je me demande si ça ne s'applique pas aussi à Microsoft, dont on parlait.
Exactement.
Ouais. Bon, donc les news et les rumeurs. Google rachèterait, on aurait la confirmation que Google rachète Twitch, le fameux site de streaming de jeux vidéo, pour 1 milliard. Entre parenthèses, on n'a toujours pas la vraie confirmation finale. C'est VentureBeat, qui est un site de news tech, qui semble avoir la confirmation, mais on n'a pas eu d'autres confirmations, c'était il y a quelques jours, donc ça semble toujours en cours au moins.
Ça serait logique en tout cas.
ça serait, oui, ça serait logique parce que c'est une, un domaine dans lequel ils ont une énorme croissance, Twitch. Mmh. Ouais. Et c'est le domaine, YouTube fonctionne énormément sur les jeux vidéo aussi. Donc, en même temps, 1 milliard pour Twitch, 18 milliards pour WhatsApp. C'est un peu...
Ouais, j'aurais inversé le, ouais. J'aurais inversé l'achat, quoi. Mais c'est pas la même ouais. société, justement.
C'est sûr.
Je pense pas qu'on va revoir des achats à 18 milliards pour un. C'est pas été une erreur forcément, mais ça a été un moment. Voilà.
C'est ça, ouais, peut-être, mais c'est bien, c'est joliment dit. Google, un nouveau projet, vous savez, le fameux, les fameux projets Moonshot, tir vers la lune. Aujourd'hui, ils s'intéressent au corps humain. Ils ont un projet qui s'appelle The Baseline Study, qui voudrait établir la, la base, enfin, les connaissances de base d'un corps humain qui fonctionne normalement, qui fonctionne bien. Étrangement, c'est un truc qu'on n'a pas, enfin, dans ce type de configuration, avec ce type de données, on n'a pas vraiment. Et ils voudraient, grâce à leur capacité à réunir des données statistiques et une quantité énorme de données, établir les bases du corps humain de manière à pouvoir détecter les maladies plus facilement et plus rapidement. Par exemple, on pourrait se dire que si un corps humain normal fonctionne de telle ou telle manière, s'il y a tel indicateur ou tel marqueur, ça peut peut-être vouloir dire que il y a eu un début de cancer ou un début de Dieu sait quelle maladie.
Ça rejoint pas mal ce qu'on disait à l'époque de Moves. Le seul truc, c'est que j'aurais préféré que ça soit plutôt un organisme de santé que Google qui utilise le data pour faire ça. Mais bon. Voilà.
Ouais. En même temps, si c'est un organisme de santé, ça va être très lié aux assurances. Et ça, c'est un truc qui fait peur aussi.
Oui.
Donc,
Non,
en même temps, je suis sûr que les assurances vont s'y intéresser chez Google aussi. Mais je sais pas pourquoi. Je suis peut-être naïf, mais j'ai encore l'illusion que quelque part, au fond du fond, Google a l'intention de d'améliorer le monde.
Ouais, je vois.
Et faire beaucoup d'argent avec de la pub, mais c'est les deux sont pas forcément compatibles, tu vois.
Ouais.
Patrick est naïf, d'accord.
Ça serait une longue émission. Ouais, je te comprends pour certaines choses, mais voilà, c'est une société, c'est pas.
Non,
c'est
mais
pas
évidemment, mais les deux sont pas. Enfin, ouais, bon, ça serait effectivement une longue émission. À propos de société, il y a eu énormément de résultats annoncés, de résultats financiers annoncés. On disait tout à l'heure, l'une des choses à retenir chez Apple, c'était qu'ils vendent plus d'iPhone, mais moins d'iPad. Est-ce que les gens, enfin, c'est vrai que les iPads se changent moins souvent, mais en même temps, est-ce que les gens ne se calment pas sur les iPads?
L'iPad, il y a eu vraiment, je dirais, les débuts de l'iPad. On l'a vu comme un device uniquement de consultation. Il a terminé dans le placard de certaines personnes. Et je pense qu'il est en train de ressortir des placards. Parce qu'honnêtement, moi, c'est devenu un outil de production très important dans ma production.
Oui, mais je crois que tu es un cas un peu particulier, Jérôme.
Non,
mais...
parce que je vois justement en entreprise, on va pas refaire le truc. En entreprise, justement, il ressort des tiroirs, l'iPad. Parce qu'il me voit, il voit ce que je suis capable de faire avec un iPad.
Non, mais c'est ce que je dis. T'es quelqu'un d'exceptionnel, Jérôme. C'est pour ça.
Un évangélisateur,
donc,
comment dire.
Ce que je voulais dire, c'est que l'une des choses à retenir, c'est le fait que l'action Facebook est maintenant au double de ce qu'elle était au moment de son entrée en bourse. Donc, il y a des gens qui étaient un petit peu sceptiques de ce que pouvait faire Facebook, surtout au moment de l'entrée
en bourse.
Et toi, le premier, eh ben, tu vois que ils ont fait énormément d'argent sur la mobilité et sur la pub. Et
j'ai pas acheté d'actions Facebook quand elles sont sorties. Je me méfiais. J'ai peut-être pas forcément encore complètement tort sur le long terme, mais là, bravo à Facebook parce qu'ils ont réussi en même pas 2 ans à faire un sacré coup de barre. Ils étaient en retard sur tout un tas de sujets. Et moi, je dis chapeau quand même à Facebook et aux gens qui la dirigent. Et il n'y a pas que Marc, parce que là, c'est un sacré boulot ce qu'ils ont fait.
C'est vrai. Non, t'as tout à fait raison. Sur la mobilité et sur plein d'autres choses. Et entre parenthèses, il semblerait qu'ils soient en train de vraiment mettre en considération la vie privée comme quelque chose d'important, ce qui est hallucinant quand même.
Oui, bah en même temps, on est dans une ère où Apple signe avec IBM, donc plus rien ne me surprend.
Et d'ailleurs, Oculus, qui appartient aussi à Facebook, serait en train de signer avec Samsung un partenariat qui, là aussi, comme Apple et IBM, pourrait être tout à fait cohérent, puisque ça permettrait à Samsung de prendre une avance rapide sur la réalité virtuelle et en même temps à Oculus de prendre une avance rapide sur le matériel. Donc, ça pourrait faire avancer les deux très vite, quoi. Donc, c'est un partenariat assez intéressant. On dit toujours qu'Amazon est en train de s'étendre absolument partout dans le monde. La dernière nouveauté qu'ils ont annoncée aux États-Unis, c'est une offre, une sorte de Spotify du livre sur Kindle. C'est-à-dire que pour $10 par mois, tu peux lire autant de d'e-books que tu veux dans leur sélection, bien sûr, mais qui est pas... qui n'est pas complètement mauvaise. Ils ont quand même quelques gros livres. Ça t'intéresserait, toi, $10 par mois ou 10 euros par mois pour autant de livres que tu veux ?
Très honnêtement, non. Je ne lis pas assez en ce moment de ma vie pour sortir $10 pour avoir accès à des livres. Je préfère sortir des euros ponctuellement pour m'acheter un livre quand j'ai envie ou besoin de lire quelque chose. Mais par contre, l'offre peut être intéressante, oui.
Bah, disons que ça vaut à peu près le coup si on lit plus de 12 livres par an. Et le truc par rapport à la musique, c'est que un morceau de musique, ça s'écoute en 3 minutes. Un livre, bon, il faut au moins quelques jours pour le lire.
Ouais.
Donc, après, c'est vrai que c'est pas tout à fait la même approche.
Est-ce que c'est un service qui va s'étendre aux dernières nouveautés qui sortent ou c'est plutôt des fonds de catalogue de livres
A priori, pourquoi pas. Mais l'autre truc intéressant, c'est que les audiobooks de Audible sont aussi inclus. Une petite sélection. Genre quelques milliers. Mais...
Ça m'intéresserait déjà plus parce que je commence à en écouter, moi.
Intéressant. Bah, a priori, pour les gens qui aiment le podcast, c'est un truc qui est cohérent. Mais...
Oui, et puis c'est quelque chose que j'arrive à faire en faisant autre chose, moi.
D'écouter
un livre. Voilà.
Donc, pour les gros lecteurs, ça pourrait être intéressant. Amazon pourrait bientôt rentrer en concurrence avec Square puisqu'il serait en train de développer un moyen de paiement. Intéressant là aussi, c'est le prochain Eldorado possiblement. Netflix arrive enfin. Ils ont annoncé officiellement l'arrivée dans 6 nouveaux marchés européens en septembre, dont la France. Et ils sont installés au Luxembourg, donc ils ne sont pas soumis à la législation française sur la question des 36 mois de délai pour les films. Ils sont soumis à la législation européenne, ce qui est bien sûr tout à fait légal. Je veux dire, n'importe quelle société en Europe a le droit de fournir des services à un autre pays européen. Malheureusement, vu les restrictions dans ce domaine que tout le monde demande à même les acteurs du marché comme Canal+ demandent à ce que les lois soient changées. Donc c'est pas juste Netflix, mais jusqu'à ce qu'elles changent les lois sont comme ça.
Numérica pourrait aussi lancer un
concurrent à Netflix, entre parenthèses.
Je ne pense pas que ça soit l'unique raison pour laquelle Netflix s'installe au Luxembourg, mais bon,
bien sûr. Non, mais tu as tout à fait raison, bien sûr. Mais là, disons qu'ils peuvent honnêtement dire, nous, on se focalise sur la vidéo. Ouais.
Non, mais c'est une excellente nouvelle, surtout que si les prix qui sont annoncés sont ceux qu'ils vont être, c'est vachement intéressant.
Bon, c'est une dizaine d'euros pour l'accès HD normal, quoi. Encore des discussions sur le droit à l'oubli. Ce qui est intéressant, c'est que l'Union européenne a demandé à parler à Google et à Microsoft pour discuter du droit à l'oubli. Là, on se dirait, donc ils ont compris que c'était un truc qui pouvait être dangereux, machin. En fait, non. Ils veulent discuter du fait que quand Google et Microsoft, enfin surtout Google, bloquent quelque chose, ils envoient un email pour prévenir. Et donc ça prévient et que donc c'est pas forcément ils envoient un email pour prévenir la personne ou la société dont le lien a été bloqué qu'il a été bloqué, et donc c'est pas un droit à l'oubli puisqu'on prévient et machin. Donc en gros, ils prennent encore le problème à l'envers, quoi. Je sais pas si j'ai été clair.
Non, mais j'avoue que j'ai pas trop suivi
le truc, je t'explique. Le droit à l'oubli, demande à Google de bloquer un lien, Google le bloque, mais ils indiquent au propriétaire du lien que ce lien a été bloqué par mail.
D'accord.
Ils leur disent, attention, votre lien a été bloqué. Donc, les gens peuvent être prévenus du truc et donc se plaindre du fait que... Donc, c'est de ça que veut discuter l'Union européenne. Je crois qu'ils n'ont pas bien compris la base du problème.
Ça viendra, c'est comme ça les plombiers.
Grand retournement de situation aussi chez Google+, que je sais, Jérôme, toi et moi, on l'utilise beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui l'utilisent énormément. Mais il y avait un gros... On parlait de vie privée avec Facebook tout à l'heure. Il y avait un gros point de discussion sur Google+, c'est le fait qu'il fallait absolument utiliser son vrai nom pour l'utiliser. Google+ fait marche arrière. Ils ont fait un vrai mea culpa. Bon, c'est peut-être aussi lié au fait que c'est pas le réseau social le plus utilisé au monde, mais... Ils ont fait un vrai mea culpa. Et on a désormais le droit d'utiliser Google Plus de manière anonyme, c'est-à-dire en utilisant des surnoms ou ce genre de choses.
Là où c'est devenu très délicat cette histoire, c'est quand ils ont obligé, et ça j'en parle parce que ça me concerne, ils ont obligé les utilisateurs YouTube à utiliser leur compte Google Plus pour pouvoir répondre aux vidéos et mettre des commentaires. Ça, je pense que ça a été un mauvais mouvement, mais ils peuvent plus revenir en arrière maintenant. Et du coup, les gens, ça les gênait quand même de devoir mettre leur vrai nom. D'ailleurs, on a vu que les commentaires sont mis à chuter. Tous les YouTubers, on s'est mis à avoir beaucoup moins de commentaires depuis ce jeu.
En même temps, de l'avis de tout le monde. C'est peut-être pas forcément un mal. Oui. Voilà, c'est que YouTube, c'était un peu le pire recoin d'Internet où il n'y avait que des...
Les forums de jeuxvideo.com, mais... enfin, peut-être pas, n'exagérons rien. Mais c'est vrai aussi. Mais n'empêche que aujourd'hui, où l'interaction que tu crées avec ton public est une donnée presque plus importante que l'audience que tu as, l'engagement, comme on appelle ça, c'était pénalisant quand même pour les producteurs de contenu YouTube, quoi.
Comprends.
Cette histoire. Voilà.
Je comprends. L'ARCEP autorise la 3G et la 4G dans les avions, comme aux États-Unis.
Plus de mode avion, c'est fini.
Plus de mode avion, enfin, visiblement. Ça me paraît bizarre, mais. Bon, c'est pour la 4G, c'est uniquement pour Bouygues, donc je sais pas. Mais ça me paraît bizarre que ça soit. Il faudrait que j'investigue la chose. Je sais pas, peut-être que.
Non, mais attends, de toute façon, 3G et 4G, tu les as sur le tarmac, mais tu les as pas en l'air.
Ah, tu crois que. Non,
oui.
Moi je crois que. Ah, peut-être.
Pour le décollage, atterrissage.
Mais c'est ça, parce que aux États-Unis, c'est le. Enfin, les appareils peuvent être allumés pendant le décollage et l'atterrissage,
mais on
peut toujours pas utiliser la 3G et la 4G. Là, c'est sans mode.
Oui, moi, je pense que c'est. Tu sais, à l'atterrissage, ils disent n'allumez pas votre téléphone avant quand vous soyez sorti de l'avion.
C'est juste ça.
Je pense que c'est juste ça. Mais la 4G, je pense pas que tu puisses la voir à 10 000 mètres. Hein. Je sais pas. Ouais. Après, je me trompe peut-être.
C'est possible. Oui, en même temps.
Quand on n'arrive même pas à la voir de rue à côté, ça m'étonnerait qu'à 10 000 mètres, on puisse la voir.
Bon, les premières reviews sont tombées sur l'Amazon Fire Phone. Vous vous souvenez avec la perspective dynamique dont on vous parlait la dernière fois. En gros, c'est pas génial, quoi. Il y a beaucoup de gens qui disent que il vaudrait mieux attendre la version 2 du téléphone parce que là, c'est pas vraiment super. C'est pas la joie encore.
Bon. Ouais. Après, c'est pas un téléphone pour nous.
Mais c'est la question. C'est un téléphone pour qui? Parce que moi, je suis super fan d'Amazon et de Amazon Prime, hein, mais.
Oui. Bon. Non, mais bon, je pense que d'abord, c'est la version 1 du produit.
C'est surtout ça. Comixology pour les fans de libre et de BD. Comixology autorise désormais les utilisateurs à télécharger des versions sans DRM de leurs comics, des comics qu'ils ont achetés. Alors évidemment, c'est des accords avec les éditeurs, donc c'est pas avec tout le monde. Marvel et DC notamment n'en font pas partie, mais d'autres sociétés comme Image Comics, qui fait énormément de choses très très bien, participent à la chose. Et donc vous pouvez désormais par Comixology, qui a entre parenthèses été racheté par Amazon, donc c'est pas que du mauvais, donc ils ont commencé à proposer des BD sans DRM, ce qui est une super bonne chose. On se souvient qu'il fut une époque où la musique qu'on achetait sur Internet était verrouillée de DRM. Peut-être que la BD sera le prochain produit culturel à se débarrasser des DRM. En tout cas, ça a un peu commencé chez Comixology et chez d'autres, hein. Il y en avait qui vendaient sur leur site directement, mais c'est une très très bonne chose, je trouve. Moi, ça va m'encourager encore plus à acheter chez Comixology, du coup.
Très bien.
Deux autres histoires amusantes. Allez, les deux histoires amusantes dont je voulais parler pour conclure, parce qu'il y aurait énormément d'autres choses. J'ai encore
le listing que t'as fait.
Ah bah c'est toujours comme ça maintenant.
Ah, si les gens voyaient là, t'as 120 lignes de news, quoi.
Ouais, non, un petit peu moins que ça, mais tu sais, c'est marrant, depuis que j'ai des Patreons, au début je trouvais que ça m'affectait pas, et puis en fait maintenant, j'ai toujours la terreur de rater un truc important. Donc,
mais tu sais
je
quoi,
garde
là,
à peu
tes
près
liens,
tout,
tu devrais les mettre dans un flipboard, quoi. Ça ferait un super magazine.
Bah ouais, ouais. Bah, enfin, déjà, les Patriots ont, enfin, à partir d'un niveau, ils ont accès aux notes de l'émission. Donc, ils peuvent aller les regarder.
Tu peux pas faire un flipboard privatif, ouais.
Bah non, non, mais à la limite,
je pense à la limite, tu l'as. Parce que tu sais que tu peux copier-coller des liens maintenant dans Flipboard depuis la dernière mise à jour.
Oui, 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 je sais, ouais. Mais bon, enfin, tu vois, pour moi, le Flipboard, c'est le rendez-vous tech et j'ai pas le temps le matin parce qu'il y a déjà mon processus de. Enfin bref, ouais. Mais peut-être, ouais. Mais c'est vrai que c'est une collection de liens hyper intéressante, quoi.
Ouais.
Mais
bon. Ouais, carrément.
Bref. Donc, mais c'est vrai que maintenant, je suis hyper attentif à ne rien rater, donc je les garde pour le cas où plus tard. Et je suis beaucoup plus. Enfin, j'étais déjà très sérieux avant, mais je le suis encore plus aujourd'hui. Mmh. Les deux derniers trucs dont je voulais vous parler, qui sont un petit peu marrants. D'abord, Dell. Enfin, le truc là encore un petit peu invraisemblable. Dell accepte les paiements en Bitcoin aux États-Unis pour les petites entreprises et les utilisateurs finaux. C'est une nouvelle qui m'a mis par terre, quoi. Même Dell commence à utiliser.
Je sais pas si c'est une bonne
Bitcoin.
Nouvelle pour Dell, mais ça fait un peu on racle les fonds de tiroir.
Bah, écoute, franchement.
Bientôt, on va pouvoir les payer avec, tu sais, des Tasker Rabbit. Aller refaire la toiture chez Dell pour acheter votre PC. Non, j'exagère. Dell a encore des choses à faire. Je suis
oui,
sûr que Dell va émerger.
Mais même pas renaître de ses cendres, ils
oui,
sont encore très
sont
très gros Dell.
Ils ont eu du mal ces dernières années, mais ils vont y arriver. Allez les gars.
Le truc qui est important, c'est que plus ça va, enfin tous les quelques mois, on entend parler d'une nouvelle société ou
oui.
d'une nouvelle qui accepte les bitcoins.
Bah, tu sais, j'ai lu un article sur la
prostitution, des petits.
Et la prostitution qui commence à accepter des bitcoins. Ouais.
Oh là là.
Il y a le côté anonyme du paiement, ça
bien
permet
sûr,
de
ouais.
payer
en
avant la.
C'est pas. Ouais. C'est pas complètement anonyme, hein, les
oui,
bitcoins,
oui,
contrairement
oui.
à ce
mais
qu'on
bon,
peut penser.
Peut-être suffisamment pour ceux qui ont l'habitude d'aller voir les
ouais.
les
à mon avis,
un
billet de vin, c'est plus anonyme, mais bon.
Enfin, un billet de vin, t'as pas grand-chose,
Patrick. Ouais, j'en sais rien, moi. Excuse-moi, Jérôme, je ne me tiens pas au courant des pratiques. Moi, tu sais que moi, j'ai fêté mon premier anniversaire de mariage hier, entre parenthèses.
Ah donc, ouais, donc t'attends encore un peu avant de t'y. Non,
bah
je
oui,
suis horrible
écoute,
ce que je
sais pas. Non, mais c'était magnifique.
Non, mais
au restaurant, bref, bon, peu
ouais,
importe.
Oui. C'est vrai que Bitcoin,
j'arrête de raconter
Bitcoin, c'est et Litecoin aussi, hein, qui marche bien. C'est assez impressionnant de. Je suis très curieux de voir ce qui va arriver avec tout ça. Très
non,
curieux.
Non, mais c'est vraiment étonnant. Je veux dire, on aurait dit il y a un an, ne serait-ce qu'il y a un an, Dell va accepter des bitcoins, mais jamais tout le monde aurait rigolé.
Bah ouais, oui.
Bon, Bitcoin non, est toujours très intéressant. Et dernière chose, donc, est-ce que tu sais quelle est la chaîne YouTube qui reçoit le plus de vues par vidéo ou au total ? Enfin, l'une des plus grosses chaînes YouTube au monde qui a le plus de vues.
Alors déjà c'est pas la mienne, je procède par élimination.
D'accord, ok.
Pas loin, pas loin, mais non, c'est pas ce testeur de jeux vidéo. C'est lui qui avait lancé la mode de Flappy Bird là. C'est un suédois.
Alors tu penses à PewDiePie.
Voilà.
PewDiePie qui est effectivement le plus gros YouTuber, qui doit être à je sais plus 24 ou 25 millions de subscribers,
ouais.
Qui est effectivement le plus gros YouTuber, mais c'est pas à lui que je pense.
Bon alors. Sinon, c'est Kardashian Machine, là.
Non plus, non plus, même pas. Ah, il est où, là ? Ça, c'est PewDiePie qui fait...
Quoi ? PewDiePie qui fait quoi ? Allô ?
Voilà, donc en fait, c'est PewDiePie. T'as entendu les PewDiePie ?
Non, j'ai rien entendu, mais si c'est
d'accord.
Dans l'enregistrement, très bien.
Oui, c'est ça. En fait, il faut faire ça pour que t'entendes.
Technology. Oh yeah, work it girl.
Donc en fait, ce qu'il a dit, c'est il était en train de jouer à Grand Theft Auto 5 et il disait ah mais enfin t'es en train de fumer, t'es enceinte, mais ça va pas, tu fumes, t'es enceinte. Et il a sorti son bazooka, il l'a fait exploser. Voilà pour punition. Voilà. Donc ça c'est plus
formidable.
Qui a 29 millions de subscribers, mais l'autre personne dont je parlais qui a moins de subscribers. Attends, je vais voir combien elle en a pour essayer d'être un petit peu exhaustif. Tac tac tac, hop. Elle s'appelle Disney. Mais non, tais-toi, ça c'est mon Joe. Hop, on va faire mute et on va passer. Hop, voilà. Donc elle s'appelle Disney Collector. Elle a seulement 1,8 million de téléchargements. Mais ces vidéos, il y en a une là qui a été vue 91 millions de fois. Et ce qu'elle fait, c'est du unboxing de petits jouets. Alors, je vais remettre le son pour que vous voyez ce que ça donne. Je viens de trouver ces petits des petits œufs surprises que j'ai achetés chez Target. Et là, elle est en train d'ouvrir le petit œuf surprise. C'est des œufs Angry Birds. Et là, elle l'ouvre, elle montre ce que c'est. Voilà. Et là, elle est en train de montrer de quoi il s'agit. Elle a la caméra très proche des jouets qu'elle ouvre. Et elle a cette voix complètement soporifique. Et c'est l'un des trucs les plus regardés. Visiblement, ça serait parce que les enfants adorent le truc et ne sont... Elle a une voix très calme et pas impressionnante. Et il semblerait que beaucoup d'enfants très jeunes se mettent à regarder ces trucs-là.
Ils le regardent en boucle, donc ils lui font des vues.
Exactement, exactement.
Ouais. Non, 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 ça c'est pas possible parce que YouTube, enfin à moins que tu t'enlèves tes, enfin que t'aies un truc pour.
Ah, peut-être.
Mais non, YouTube, surtout maintenant, ne compte plus les doubles vues et tout ça. C'est très strict les vues YouTube.
Bah écoute, en tout cas,
j'ai testé pour faire monter mes vues. Tu
écoute, chaque vidéo a 30 millions, 33 millions. Enfin, c'est invraisemblable, quoi.
Bon,
Disney Collector,
j'annonce en direct que Nintendo prend un virage à 90. Je vais faire des tests d'œufs Kinder avec une voix très douce et monocorde.
Voilà. Non, mais enfin, moi, ça me paraît hallucinant. Bon, j'exagère. Hein. Ils n'ont pas tous autant de trucs que ça, mais il y en a une qui a 91 000. Les autres ont beaucoup moins, quand même. J'exagérais un peu.
C'est bah plus alors, ce en quelques centaines de milliers. Savoir pourquoi celle-là a...
Bah, écoute, il y en a quand même qui ont 4 millions, 5 millions, 400 000, 4 millions, tu vois. Et mais ce que je voulais dire, c'est que...
Et il y a de la pub devant son truc, parce que...
Ah bah, bien sûr, j'en suis sûr.
Là, à ce niveau-là, tu te mets à toucher quand même pique fat argent, hein, quand même.
Ah oui, bien sûr. Ouais. La raison pour laquelle je voulais en parler, c'est que c'est... Il y a sur YouTube et sur Internet en général, des royaumes que on n'imagine pas. Mmh. Tu vois, des trucs qui sont qui ont un succès monumental et dont si on n'est pas dans ce domaine-là, on n'en a jamais entendu parler et ça nous paraît hallucinant, quoi.
Et c'est une preuve fondamentale que ce qu'on a dit depuis plusieurs années, qu'on disait chez No Watch, que ce qui marche à la télé ne marche pas sur Internet et ce qui marche sur Internet ne marche pas sur la télé. Et que c'est quand même des mondes très, très différents et qu'on peut faire des très grosses audiences avec des domaines très, très particuliers, quoi, à partir du moment
où... C'est la preuve, oui.
C'est la preuve, ouais.
Disney Collector, c'est le nom de cette chaîne si vous voulez aller y jeter un coup d'œil. Écoute Jérôme, je pense que ça nous amène à la fin de cette émission.
Eh bien déjà, on en est à quoi, 2 heures là? Non, on n'a pas battu
non,
le record.
Non, c'est une émission plutôt courte, hein. C'est l'été, c'est normal, il y a moins de news, moins de sujets hyper controversés, mais on est à peu près 1h15, donc
en tout cas, c'est tranquille. Je te remercie beaucoup de m'avoir invité. Y a bon nombre de rendez-vous tech où je peste tout seul dans la rue en disant « Mais oh, j'aurais dû dire ça, mais Patrick, il dit n'importe quoi, comme d'habitude. »
Mais tu bon, sais, c'est le principe. Hein. C'est le principe. Des podcasts même, c'est l'idée. Si vous aussi, chers auditeurs, vous vous dites derrière vos écouteurs « Ah mais j'aurais voulu dire ça » ou « Non, tu as tort, tu devrais dire plutôt ça » ou « J'aurais voulu participer à cette conversation » ou « J'ai l'impression d'y participer », c'est qu'on fait bien notre boulot. Et d'ailleurs, vous pouvez tout à fait y participer, que vous soyez patriote ou pas. Vous pouvez venir sur frenchspin.com dans les notes de l'émission et nous laisser des commentaires, nous dire ce que vous pensez, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Vous pouvez vous le faites à chaque épisode. Il y a beaucoup de gens qui le font, évidemment. Il y a beaucoup de gens qui commentent. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement instructif pour nous et que j'apprécie particulièrement. Donc, frenchspin.com et vous retrouvez les notes de cet épisode en particulier pour nous dire ce que vous en avez pensé. Avant de se quitter, Jérôme, bien sûr, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet?
Alors,
pendant que ma femme
est en train de rentrer.
Non, elle est en train de refaire la cuisine. Non, elle est en train de refaire la peinture des toilettes, figure-toi. Elle a poncé les civets,
on se croirait dans Karate Kid. Tranquille, et toi, elle fait les travaux.
Non, mais c'était pire. Tout le week-end, j'ai joué à la bêta de Destiny. et elle était en train de faire, de refaire la. Mais c'est elle qui voulait. Moi, j'ai dit ah mais bricolage machin, moi ça m'emmerde. Tu vois, c'est pour ça. C'est
très
pour
fort,
ça,
Patrick. Là, j'avoue, chapeau, respect, respect, parce que jouer à Destiny pendant que ta copine est en train de repeindre le mur.
Bon, d'une part, c'est pas ma copine, c'est ma femme.
Ta femme.
D'autre
pardon,
part, mais... c'est pour ça que on s'entend tellement bien. Parfois, c'est moi qui fais des trucs, qui ai besoin, qui veut faire des trucs et des machins, et elle, elle a pas envie, et ben je l'emmerde pas, elle fait ce qu'elle veut. Mais dans l'ensemble, et parfois c'est elle qui veut faire des trucs, et ben c'est elle qui les fait. Mais dans l'ensemble, tu vois, on a quand même un équilibre qui se forme naturellement, mais sans avoir besoin d'emmerder l'autre pour. Et voilà, si moi j'ai envie de, enfin tu vois, je m'occupe de tous les trucs informatiques, les câbles, les machins, c'est mon truc. S'il y a des trucs qu'elle veut faire et que moi j'ai pas envie de les faire, bah parfois, bien sûr, on les fait ensemble. Mais si moi j'ai pas envie de les faire, bah c'est pas la fin du monde, voilà, c'est pas grave.
On a bien compris, vois, que toi ta spécialité c'était la plomberie.
Donc bref, où peut-on donc, te retrouver,
où est-ce qu'on peut me trouver? Alors Nowtech TV, où je teste des applications et des petites joyeusetés tech. J'en profite parce qu'on en parlait tout à l'heure. Nowtech TV, c'est aussi un flipboard, mine de rien. Et si vous voulez rejoindre les 17 308 lecteurs de Nowtech TV, je suis assez content. Hein, il y a pas mal de gens.
Presque 20 000 lecteurs. Mais
20 000
c'est
lecteurs
croyant,
de
c'est
Nowtech
énorme.
TV. Et en fait, tous les matins, quasiment tous les matins, sauf quand je suis en vacances, Marion et moi-même, on regroupe les articles qu'on lit sur le tech dans Nowtech TV, dans ce flipboard. Pour vous abonner à ce flipboard, vous allez sur le site nowtech.tv et il y a une bannière à droite où vous cliquez et vous pouvez aller sur votre flipboard, mais sur notre flipboard, même si vous n'avez pas l'application, puisque flipboard se lit aussi sur le web. Voilà.
Bah, tu sais quoi, c'est pour ça que ça sert à rien que je fasse un flipboard. Tu as déjà trusté le marché, en fait.
Très honnêtement, je pense que le comptage des lecteurs sur flipboard
est un peu ballonné.
Me fait un peu penser, là, je vais me faire des ennemis, au comptage des vues sur Dailymotion. Désolé, non, c'est méchant ce que je dis. Mais bon, voyez ce que je veux dire.
Oui, 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 comme YouTube au début, quoi.
Voilà, YouTube au début. C'est exactement. Devenu super strict hein, maintenant, YouTube.
Ah oui,
une vue,
sais,
c'est
oui.
Une vue. Hein. Waouh.
Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Ouais. Bon, et pour ma part, c'est NotPatrick sur Twitter. Vous savez que Twitter reste mon réseau social préféré, même si Google Plus, j'aime beaucoup aussi. Et bien sûr, il y a Facebook aussi, facebook.com/NotPatrick. C'est là que vous pouvez me suivre. FrenchSpin.com, on en a parlé pour les notes de l'émission et les commentaires. Et bon, LRDV.fr, si vous voulez participer à cette folie douce qu'est le rendez-vous tech et soutenir l'émission, c'est par là-bas qu'il faut aller, LRDV.fr. Nous, on sera de retour dans 15 jours, sans faute évidemment, comme toujours, on est toujours là, même pendant l'été, en tout cas jusqu'ici. J'espère que je ne vais pas avoir un problème, mais on sera là dans 15 jours pour vous résumer là encore l'actualité tech. Et ça sera donc mi-août. On vous fait de grosses bises et on vous dit à dans 15 jours. Ciao à tous.
Passez de bonnes vacances, crémez-vous bien.
Ouais, hein, n'oubliez pas.
Ah, hein, la crème.
Au moins plus 40.
Oh bon, oui, là, ils ont tout déréglé avec leurs satellites maintenant.
Cette émission est
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.